La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices. Je suis Patrick Saporito de l'église baptiste de Cahors. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Après avoir connu son heure de gloire dans sa jeunesse en tant que chanteur à succès, il fait tout pour rester jeune, du moins pour paraître jeune, à coups de chirurgie esthétique, botox et compagnie. Mais sa voix le trahit, éraillé, plus aussi juste qu'avant. Les kilos en trop aussi. Pas facile de vieillir, surtout pour une célébrité. Être l'ombre de soi-même, c'est juste vouloir paraître ce qu'on a été et qu'on n'est plus ou presque plus. C'est juste avoir gardé son nom. Le danger existe aussi pour des chrétiens, de n'avoir gardé de leur vie chrétienne que le nom. Ce sont des chrétiens de nom, mais leur vie n'est plus ce qu'elle a été au début. Leur ferveur des débuts a disparu. Ils se sont endormis spirituellement. Après la quatrième lettre adressée à l'église de Thyatire, fidèle et affermie mais avec des compromis, voici la cinquième adressée à une église endormie, pas affermie, celle de l'église de Sardes. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. À partir de ce texte, nous pouvons affirmer qu'un vrai chrétien veille pour ne pas s'endormir. C'est ce que nous allons voir en trois points. Premièrement, nous verrons quelles sont les causes d'un endormissement spirituel. Deuxièmement, nous verrons les conséquences de s'endormir par manque de vigilance. Et troisièmement, nous verrons comment se réveiller ou rester éveillé pour être vainqueur. Déjà, voyons le contexte historique de cette église de Sardes au 1er siècle. La ville de Sardes était l'ancienne capitale du royaume de Lydie en Asie mineure, située près du fleuve Pactole. Elle fut la capitale du riche roi Crésus, qui a donné l'expression « riche comme Crésus », qui plus est à côté du fleuve Pactole. La ville était donc connue comme une ville très bourgeoise, de par son industrie de laine, mais aussi pour sa débauche. Elle s'imaginait invincible, mais par manque de vigilance, fut vaincue par ses ennemis les Perses. Sous l'occupation des Romains, du temps de l'apôtre Jean, elle vivait de son renom, dans l'ombre de sa puissance passée, ayant perdu le prestige de sa grandeur première. L'église de Sardes a suivi le déclin de la ville de Sardes, car la vie de la ville avait déteint sur l'église. Elle est devenue mondaine. Et de ce fait, l'église s'est endormie et est même devenue morte spirituellement, selon le grave reproche que le Seigneur lui fait au verset 1. Elle passait pour être vivante, mais était morte. Littéralement, l'expression « tu passes pour être vivante » peut se traduire par « tu as le nom de vivre ». Elle avait juste le nom, mais pas la vie. Toute l'Église est qualifiée de morte, malgré les quelques hommes fidèles. Tous sont responsables de cet état. Cette lettre est là pour l'instruction donnée à l'Église, pour notre instruction, comme les autres lettres, pour nous éviter de nous endormir. Premièrement, voyons quelles peuvent être les causes d'un endormissement spirituel. Ceux qui conduisent la nuit veillent pour ne pas s'endormir au volant. Quand on s'endort, c'est qu'on ne veille plus, parce qu'on est trop fatigué ou pire, parce qu'on croit connaître la route par cœur. La vigilance diminue et on risque un grave accident. Dans cette lettre, Il n'est pas question de faux docteurs comme à Pergame, ni de faux prophètes comme à Thyatire. Pas de problème à l'intérieur donc, ni de persécution de l'extérieur. Satan n'est pas non plus cité, même s'il travaille à faire tomber l'Église. Le problème de l'Église de Sardes était qu'elle s'est endormie parce que trop tranquille, autosuffisante dans son bien-être financier, bien installée dans son confort. Et c'est quand tout va bien qu'il faut être vigilant. Quand ils arrivent, ne voyons pas les problèmes dans l'Église comme des problèmes, mais plutôt comme des moyens de nous tenir éveillés. Lorsque vous ne rencontrez jamais d'opposition dans votre vie chrétienne, eh bien c'est le moment de s'examiner. L'Église avait une belle apparence, celle d'être vivante, mais ce n'était qu'un vernis religieux. Elle devait certainement avoir un beau bâtiment, une louange avec de bons musiciens, des traditions religieuses, des rites bien établis. Alors pourquoi changer? On a toujours fait comme ça. Sauf que l'Église manquait de vie. Elle s'était enfermée dans un formalisme religieux, la routine quoi, et l'adoration avait disparu. Jésus n'était plus au centre du culte par le Saint-Esprit. L'Église est devenue hypocrite, avec beaucoup de chrétiens de nom. Qu'est-ce qu'un chrétien de nom? Eh bien, on peut naître dans une famille chrétienne ou appartenir à une Église sans être converti, sans être passé par la repentance et la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Mais même si on est chrétien, le danger est là de s'endormir. Comment? Lorsque Jésus n'est plus la priorité première, parce qu'on n'a plus de relation personnelle avec lui, parce que l'expression personnelle de la foi disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé à Sardes? Pourquoi en sont-ils arrivés là? Le Seigneur leur fait remarquer « Je connais tes œuvres ». Ce sont nos œuvres, bonnes ou mauvaises, qui démontrent notre foi ou notre manque de foi. C'est pourquoi le Seigneur éprouve les œuvres pour chaque Église. L'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 26, nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Ils avaient bien la foi dans le sacrifice de Jésus, mais ils se sont arrêtés là. Ils n'avaient pas les œuvres, ou plutôt, ils en avaient, mais elle n'était pas parfaite, selon le verset 2. Les œuvres de l'Église de Sardes visaient donc juste à soigner l'apparence, à paraître spirituelle, et donc étaient vides, creuses, inachevées, faites négligemment à la va-vite. Pourquoi une telle négligence? Eh bien, à cause d'une mauvaise compréhension de l'assurance du salut qui découle de la grâce. Rappelons-nous, c'est le Seigneur qui nous sauve, et pas nos bonnes œuvres. On est sauvés par grâce et par la foi. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Fin de citation. Cette parole du Seigneur est là pour nous donner l'assurance du salut en Jésus-Christ. Assurance fondée sur sa parole et son sacrifice à la croix, et non pas sur nos œuvres. Mais les chrétiens de Sardes pensaient « On est sauvés, donc c'est bon, on a un ticket pour le ciel, on a nos noms écrits sur le livre de vie, on peut se laisser aller à pécher, pas besoin de faire de bonnes œuvres. » Résultat, perte de vigilance. Ils se sont endormis. Et maintenant, voyons plus en détail quelles sont les conséquences de s'endormir par manque de vigilance. Deuxième point donc. Une des conséquences de l'endormissement spirituel est d'être complaisant face au péché. L'église de Sardes ne s'était pas démarquée du mode de vie débauché de la ville de Sardes. Il est question de vêtements dans cette lettre. Jésus mentionne un petit reste qui n'a pas souillé ses vêtements. Certains avaient donc leurs vêtements souillés par le péché, voire pas de vêtements du tout. Une autre conséquence de ne pas veiller est qu'on ne veille plus les uns sur les autres. Et oui, comment veiller sur les autres si on ne veille pas sur soi, déjà? L'égoïsme s'est installé, les prières sont constamment tournées vers soi. Autre conséquence de l'endormissement est qu'on va de moins en moins à l'église. Le nombre de chaises vides augmente. Pourquoi certains ne vont-ils plus à l'église? Parce qu'ils attendent plus que de remplir les chaises. Parce qu'ils sont déçus par une routine, un formalisme qui s'est installé. Mais ils oublient qu'ils peuvent contribuer au réveil par leur présence et que l'église a besoin d'eux comme ils ont besoin de l'église de Jésus-Christ. Mais la conséquence principale de la mort spirituelle et que le Seigneur condamne et qu'on fait semblant. On se fait une fausse renommée, on soigne l'apparence, on sait jouer aux chrétiens. On vit sur ses souvenirs, sur ses expériences du passé. On écoute en boucle le cantique qui nous a fait tant vibrer au début de notre conversion. On regarde le même film chrétien qui nous avait tant ému, mais là, pas de résultat. On a perdu la flamme des débuts de notre vie chrétienne. On professe juste sa foi, mais derrière, c'est creux. On ne fait plus rien. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21, Jésus nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Fin de citation. Il ne s'agit pas de sauver les apparences, mais le cœur. Les apparences sont trompeuses et doivent tomber. Voilà pourquoi le Seigneur écrit cette lettre. Il y a tout de même de l'espoir, parce que si la flamme n'est plus là, un peu de grâce et de vie chrétienne reste. Il reste un petit lumignon qui peut la raviver. Quand on se chauffait, mon épouse et moi, à l'incert, et que le feu faiblissait, parfois il ne restait qu'un tout petit lumignon de braise, et ça suffisait pour le ranimer. Mais il fallait auparavant bien secouer les braises et les cendres. Mais qui va raviver le petit lumignon dans l'église? Eh bien, voyons mon troisième point. Comment se réveiller ou rester éveillé? Comme dans les autres lettres, le Seigneur se présente sous un aspect répondant à la situation et aux besoins de l'église à qui il s'adresse. Ici, il se présente, verset 1, comme, je cite, « celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles ». Les sept esprits de Dieu sont l'Esprit Saint, et les sept étoiles représentent les responsables des églises. Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui va réveiller son Église. Comment? Par l'Esprit Saint. Dieu nous a non seulement donné son Fils pour nous sauver, mais il nous a donné aussi, à nous qui croyons, son Saint-Esprit pour mener notre vie chrétienne. Quelle grâce! Comment le Seigneur procède-t-il avec une Église morte? Eh bien, si les vivants enterrent leurs morts, lui, le Seigneur, n'enterre pas son Église, mais il la ressuscite de toute façon. Alors il y a de l'espoir, parce qu'il est fidèle. Comme dans les autres lettres, si on ne réagit pas, c'est lui-même le Seigneur qui intervient. Si on ne se réveille pas, c'est lui-même qui nous réveillera. Mais le réveil peut être brutal, au risque d'être secoué. Le Seigneur, après son ascension, avait commandé à ses disciples d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Que s'est-il passé? Eh bien, ils sont restés bien tranquillement entre eux à Jérusalem, tant ils étaient bien. Et c'est la persécution qui les a obligés à fuir, et donc à aller évangéliser de par le monde. Notre texte au verset 3 nous dit « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Ça peut déranger de voir Jésus reprendre ainsi son église, n'est-ce pas? Mais voyons-y plutôt l'objet de sa grâce. C'est justement parce qu'il aime son Église et en reste le chef, qu'il ne veut pas la laisser mourir spirituellement et qu'il sait la réveiller quand elle s'endort, plutôt que d'effacer des noms de son livre de vie. Au verset 5, Jésus promet au vainqueur, je cite, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Fin de citation. Sur ce livre sont inscrits les noms de ceux que Dieu a choisi de sauver de toute éternité par pure grâce et pas par nos mérites. Alors, dans sa grâce, le Seigneur fera en sorte que le nom des sauvés, les élus, restent dans son livre pour que nous soyons vainqueurs. Et pour cela, il saura nous réveiller si besoin. Il ne s'agit pas de veiller une fois par jour ou une fois par semaine en allant juste une fois par semaine à l'église ou une fois par mois. Il s'agit de veiller heure par heure, âge 24, puisque le Seigneur avertit qu'il peut surgir à n'importe quelle heure. Eh bien, c'est possible de veiller. Comment? Par le Saint-Esprit que tout chrétien a reçu lors de sa conversion. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à nous rappeler, verset 3, je cite, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Fin de citation. Vous rappelez-vous comment vous étiez lorsque vous avez entendu et reçu l'évangile de Jésus-Christ pour la première fois, si c'est votre cas? Ce n'était pas par le mérite de vos bonnes œuvres. Vous avez simplement reçu le pardon de vos péchés, offert gratuitement à quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix et ressuscité pour nous tous. Et vous rappelez-vous qui était la personne qui vous a annoncé l'évangile pour la première fois? Et aujourd'hui, vous sentez-vous comme au premier jour? Pour ma part, j'ai entendu pour la première fois l'évangile par quelqu'un qui était sorti de sa zone de confort pour l'annoncer dans son bibliobus en parcourant les plages. J'ai entendu dernièrement qu'une jeune fille s'est faite baptiser dans une église suite à un traité qu'elle avait reçu dans sa boîte à lettres. Quelqu'un est sorti de sa zone de confort pour poster le traité. Jésus a quitté le confort de son ciel pour venir nous rencontrer et naître humblement dans une étable. L'exhortation du Seigneur à se souvenir n'est pas pour vivre sur le passé, pour n'être plus que l'ombre de soi-même, mais vise plutôt à nous réveiller pour aller de l'avant avec lui. Et quand on est réveillé, c'est alors qu'on peut réveiller les autres. C'est pourquoi le Seigneur demande à l'Église d'affermir les frères et sœurs qui ne sont pas encore morts spirituellement. Verset 2, je cite, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. » Comment les affermir ? Par l'Esprit Saint. On peut aimer et fortifier nos frères et sœurs, prier les uns pour les autres. Peut-être vous ne passez jamais de coup de fil aux autres parce que vous vous dites que vous n'avez rien à leur apporter. Mais comment vous êtes-vous senti lorsque quelqu'un a pris de vos nouvelles alors que vous étiez malade du Covid ou autre ? Par un simple SMS avec ces trois mots, « Comment vas-tu ?» Oui, vous pouvez apporter aux autres ce que vous avez reçu. Aussi, pour rester éveillé, il nous faut revenir à une juste compréhension de l'assurance du salut. Pourquoi le Seigneur veut-il que nous, chrétiens, qui avons accepté Jésus comme notre seul sauveur, nous soyons sûrs de son salut ? Eh bien, ce n'est pas pour nous laisser aller. Mais c'est au contraire parce que nos noms sont inscrits dans son livre de vie que nous devons faire tous nos efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour œuvrer pour lui, par reconnaissance pour lui, par amour pour lui, et pas pour sauver les apparences. Le Seigneur fait le reproche à l'église de Sardes que leurs œuvres ne sont pas parfaites. Était-ce un appel au perfectionnisme ? Par exemple, faire le meilleur gâteau ou la plus belle décoration pour le culte ou interpréter le plus beau chant ? Même si le Seigneur est digne que nous lui apportions le meilleur de ce que nous savons faire, les œuvres parfaites qu'il attend ne sont pas celles qui semblent les plus belles que les autres, ou plus spirituelles en apparence. Ça, c'est le meilleur moyen de se comparer aux autres et de tomber dans l'orgueil. Non, les œuvres parfaites sont les bonnes œuvres qu'il a, je cite, Éphésiens 2, verset 10, « préparées d'avance pour que nous les pratiquions ». Fin de citation. Ce sont ses œuvres à lui qu'on ne peut faire qu'avec lui, avec les dons et la puissance du Saint-Esprit qu'il distribue à son Église, l'Église de Jésus-Christ. Le mot « parfait » veut dire aussi « achevé ». Même si nous quittons cette terre sans avoir eu le temps de terminer nos bonnes œuvres, eh bien nous devons faire tous nos efforts pour les achever pendant notre parcours ici-bas. Et pour cela, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez des objectifs dans votre vie ? Des objectifs à court et à long terme ? Que faites-vous quand vous voulez faire une bonne œuvre de longue haleine et que vous ne savez pas par où commencer ? Eh bien, décidez de commencer, même si vous commencez petit. Pour cela, faites-vous un planning en vous fixant des objectifs à long et à court terme, atteignables, accessibles. Par exemple, si votre objectif est de vous former pour servir Jésus, ça peut aller d'une formation biblique, à l'apprentissage d'une langue ou d'un logiciel, ou à apprendre un instrument de musique, eh bien commencez petit, par planifier une heure dans votre journée, et tenez-y-vous. Au bout de 30 jours, vous aurez suivi 30 heures de formation. Comme dans les autres lettres, Jésus promet une récompense au vainqueur. Mais ne confondons pas don gratuit et récompense. Le salut est gratuit et immérité et se caractérise par le vêtement blanc que Jésus donne à quiconque croit en son sacrifice, à la croix et se repent de ses péchés. Et toi, as-tu reçu ce vêtement blanc ? Comme quoi Jésus t'a pardonné et a enlevé la saleté de ton péché. Jésus nous a revêtus de sa justice, de sa pureté à nous qui croyons en lui. La récompense, elle est donnée à ceux qui auront gardé leur vêtement blanc, c'est-à-dire ceux qui se seront gardés des souillures du monde. Mais même si vous vous efforcez de garder votre vêtement blanc et que vous avez péché, eh bien, la Bible nous dit, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Même si parfois vous constatez une tache sur votre vêtement blanc, eh bien, confessez vos péchés, et lui, Jésus, il effacera cette tâche. À l'église de Sardes, ils n'étaient pas nombreux ceux qui avaient gardé leurs vêtements blancs. Quelques hommes, quelques noms, ceux des vrais chrétiens. Pas ceux qui portaient juste le nom d'être en vie, qui en avaient l'apparence. Parce que si le salut est l'œuvre du Seigneur, nous, chrétiens, avons notre part de vouloir garder notre vêtement blanc, de nous garder purs en restant éveillés, mais avec sa puissance, celle du Saint-Esprit, et pas par nos propres forces. Est-ce que ce vêtement blanc caractérise ta vie ? Si oui, alors tu es digne, dans le sens que tu mérites de recevoir ta récompense en plus de ton salut offert. Cette récompense sera de marcher avec le Seigneur, avec ce vêtement blanc qu'il t'a donné. Marcher avec le Seigneur, c'est marcher dans l'amour, la vérité et la justice, car il est tout cela. Voilà la récompense suprême, toujours la même, être toujours plus proche de Jésus, le connaître et être connu de lui. En effet, il confessera avec joie les noms des sauvés devant son Père et ses anges.
De l'air avoir besoin d'air. Besoin d'air.